Merci, Madame la Présidente. Tout comme ma collègue, je dois dire que je suis déçu que vous n'ayez pas pu faire le déplacement à Genève. Quoi qu'il en soit, j'espère que notre dialogue sera constructif. Je vais aborder les rubriques qui concernent tout d'abord les principes généraux en ce qui concerne la non-discrimination. Votre constitution interdit, me semble-t-il, la discrimination basée sur la race, le lieu d'origine, la naissance, l'opinion politique, l'affiliation politique, la couleur, le sexe, la croyance. Toutefois, certains rapports indiquent que les enfants sont victimes de discrimination en ce qui concerne l'accès égal et complet à une protection élémentaire, à l'éducation, aux services de santé et à d'autres droits. Il n'y a pas de loi non plus qui interdirait la discrimination à l'encontre d'une personne sur la base de l'orientation sexuelle ou d'identité de genre en ce qui concerne les biens et les services essentiels ou l'accès aux services publics, notamment les soins de santé. Néanmoins, à la lumière des différentes informations que j'ai pu obtenir, vous avez des lois strictes contre l'indécence qui opère une discrimination à l'encontre de la communauté LGBTI. Pourriez-vous m'aider à mieux comprendre la situation de vos plans et politiques actuels en matière de non-discrimination? Quelles sont les mesures que vous envisagez pour éliminer vos lois ou les amender lorsqu'elles créent des discriminations à l'encontre des enfants dans ces situations problématiques, notamment s'agissant des enfants handicapés, des filles, des enfants migrants et des enfants LGBT, transgenres, intersexes, etc. Avez-vous des plans pour transformer les normes et les comportements sociaux qui perpétuent la discrimination à l'encontre des enfants, plus particulièrement à l'encontre des enfants ayant une autre orientation sexuelle? En ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant, pourriez-vous nous donner des informations sur les procédures et les critères utilisés par les prestataires de services et les autorités pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant dans tous les domaines et en tant que considération principale? Quid de l'application de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les évaluations d'impact de toutes les lois et de toutes les politiques concernant les enfants pour la réalisation des droits de l'enfant? En ce qui concerne le droit à la vie et à la survie, je suis préoccupé par le fort taux d'homicide chez les enfants. En ce qui concerne la violence de bandes organisées de jeunes, problème évoqué par ma collègue, pourriez-vous nous parler des mesures adoptées pour prévenir ce type de phénomène, surtout en ce qui concerne la maîtrise des armes à feu? En ce qui concerne le respect des points de vue de l'enfant, j'aimerais revenir sur notre recommandation antérieure, c'est-à-dire fournir des informations sur les lois et politiques qui promeuvent et intègrent systématiquement le droit de l'enfant d'être entendu sur toutes les questions qui le concernent. En ce qui concerne la violence à l'encontre des enfants, les sévices, les exploitations et violences sexuelles et la négligence, les sévices à l'encontre des enfants sont illégaux dans le pays. Le gouvernement appliquerait visiblement la législation de manière efficace. Toutefois, je suis préoccupé de voir qu'il y a une forte hausse des cas comme la négligence, les agressions physiques ou l'exploitation sexuelle au fil des ans. Je note également qu'il n'y a pas de stratégie nationale efficace en vigueur. Pourriez-vous nous fournir des informations sur la situation actuelle et nous dire quelles sont les mesures que vous envisagez pour renforcer l'application de vos plans et politiques afin de réduire cette augmentation du nombre de cas. Je crois comprendre que l'unité des victimes spéciales a enquêté sur des allégations de violences sexuelles et physiques, de violences domestiques, de maltraitance de mineurs et d'infractions à l'encontre des enfants et que le ministère des Services sociaux et le ministère de l'Éducation collabore régulièrement dans le cadre de programmes pour réduire les sévices à l'encontre des enfants. Pourriez-vous nous expliquer comment ces pratiques ont contribué à améliorer la situation? Je suis heureux de constater que l'adoption de la loi sur la violence domestique, le lancement du pacte sur la violence domestique et d'un protocole en 2018 et d'une campagne de 90 jours pour mettre en place un plan d'action national a été observé. Ces mesures ont-elles généré un impact positif? Pourriez-vous également nous parler de l'état actuel du plan national, plan qui devait être mis en place? Pourriez-vous également donner des informations sur les mécanismes accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants pour qu'ils puissent signaler des violences, notamment des sévices sexuels? Quels sont les mécanismes de signalement obligatoires et d'enquête pour toutes les formes de violences à l'encontre des enfants? Pourriez-vous également nous donner des informations sur la situation des enfants LGBTI et sur le type de mécanisme de protection et d'appui pour ceux qui sont victimes de harcèlement, de stigmatisation, de discrimination ou de harcèlement, de violence, de rejet de la part de leur famille en raison de leur genre? J'aimerais également des informations sur tout plan visant à mettre en place une ligne d'assistance téléphonique adaptée aux enfants avec les ressources techniques, financières et humaines requises pour son bon fonctionnement. Comment entendez-vous par ailleurs promouvoir l'utilisation d'un tel outil auprès des enfants? En ce qui concerne le châtiment corporel, je crois comprendre que le châtiment corporel est légal à la maison et que l'interdiction doit encore être mise en place dans les institutions, les écoles, les institutions pénales et au sein du foyer. La loi sur la justice pour mineurs de 2013 a abordé cette question en abolissant le châtiment corporel comme une peine pour les enfants. Le châtiment corporel peut être administré en dernier recours lorsqu'aucune autre peine n'est efficace. C'est assez inquiétant. J'aimerais insister sur l'observation générale 8 de 2006 sur le châtiment corporel de notre comité. Et j'aimerais vous demander si vous avez des projets pour interdire spécifiquement le châtiment corporel dans la législation et dans la pratique, dans tous les contextes, pour promouvoir des réponses non violentes et positives et des formes participatives d'éducation des enfants et de discipline. Quelles sont les mesures que vous prévoyez pour garantir un changement de comportement et de normes au sein de la société? En ce qui concerne les pratiques néfastes, à la lumière des différents rapports que j'ai pu lire, je vois que l'âge minimum légal du mariage est 18 ans, pour les hommes comme pour les femmes. Deux votes exceptions sont possibles pour le mariage dès 15 ans. Je constate également que l'âge du consentement pour les rapports sexuels est de 16 ans. Je crois que ceci présente une anomalie juridique puisque l'absence de rapports sexuels dans le mariage peut être utilisée comme un motif d'annulation. Je peux faire fausse route, mais j'aimerais savoir quelle est la réalité du terrain. J'aimerais également savoir si vous avez des projets de retirer les exceptions à l'âge nubile établi. Je ne vois pas non plus de données publiques du gouvernement disponibles sur les unions et les mariages précoces. Je fais peut-être erreur, mais j'aimerais des informations à ce sujet. Pourriez-vous également me donner des renseignements sur les mesures adoptées, notamment la sensibilisation et les programmes de transformation de la société pour éliminer ces pratiques néfastes de manière générale et le mariage des enfants plus particulièrement? J'avais également une partie sur la violence des bandes organisées, mais puisque cette question a été abordée par ma préopinante et par moi-même il y a quelques instants, je vais passer directement aux enfants handicapés. Si je me félicite de la création de l'unité des services pour les personnes handicapées en 2023 et d'un centre pour l'autisme à Saint-Kitts, je suis très préoccupé de voir qu'il n'y a pas de loi spécifique ou de politique nationale sur le handicap. Les mesures d'identification rapide des enfants handicapés sont largement insuffisantes. Les services de dépistage, le renforcement des capacités humaines, les transports pour les enfants sont soit limités ou n'existent pas du tout. Pourriez-vous nous donner des informations sur les mesures appliquées ou les projets ou les programmes qui permettraient de remédier à ces préoccupations? Pourriez-vous également nous parler de l'état actuel du projet de loi sur le handicap de Saint-Kitts-et-Nevis et de votre projet de remettre à niveau votre loi sur les besoins sociaux pour en faire une loi sur le handicap? En ce qui concerne par ailleurs des services de protection sociale inclusifs et ouverts et les allocations pour les enfants handicapés, pourriez-vous me donner des informations supplémentaires? Enfin, quid des campagnes de sensibilisation vis-à-vis des fonctionnaires publics, de l'opinion publique et de la famille afin de prévenir la stigmatisation?